Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. Eh bien, nous allons parler à présent de l'impact du système de détection du ver de Guinée en République démocratique du Congo. Vous savez, le ver de Guinée ou la dracunculose est l'une des maladies tropicales négligées encore présentes en République démocratique du Congo. Et alors, comment fonctionne le système de détection de cette maladie? Nous aurons tout à l'heure Dr Serge Nkoy Mbilo, directeur du programme national de l'élimination de la dracunculose, ou appelé aussi ver de Guinée. Vous êtes intéressé, le sujet vous intéresse, eh bien, appelez déjà au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tatima Poukou assure la coordination et la réalisation. Au micro, aujourd'hui, Daniel Keshama, Alain Goy, à la mise en onde.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent du ver de Guinée ou la dracunculose, qui est l'une des maladies tropicales négligées encore présentes en République démocratique du Congo. On la retrouve dans les communautés où l'on consomme de l'eau polluée. La RDC, le Congo, figure parmi les pays dont l'éradication de ce parasite n'est pas encore certifiée par l'OMS. Un système de détection de cette maladie a été mis en place par le ministère de la Santé avec ses partenaires. Comment fonctionne ce système de détection du ver de Guinée? Quel est son impact à ces jours? Docteur Serge Nkoy Mbilo, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Vous êtes le directeur du programme national de l'élimination de la dracunculose. La première question de savoir, c'est quoi la dracunculose ou le ver de Guinée?
Merci, nous voulons vous dire que je suis docteur Nkoy Mbilo Serge, directeur du programme national d'éradication. Ce n'est pas l'élimination, mais l'éradication de dracunculose ou maladie de ver de Guinée.
Okay.
Donc, la dracunculose ou la maladie de ver de Guinée, c'est une filariose. Une filariose, c'est une maladie causée par un filaire. Je peux le dire comme les gens connaissent des filaires. Deuxièmement, comment on l'attrape? On l'attrape par la consommation des eaux, des boissons qui sont contaminées des larves ou des cerquaires qui portaient ces larves-là. Quand les gens viendront consommer ces eaux, ça va continuer la multiplication ou le cycle de ces larves-là dans le corps de la personne qui l'a consommé, et ça va se transformer à un ver. Ces vers-là, c'est un ver filiforme, long, il est comme un spaghetti, mais il peut atteindre à peu près un mètre de longueur. Et quand vous consommez l'eau aujourd'hui, l'incubation, donc la période que ça peut prendre dans votre corps, ça peut aller de 8 à 12 mois. Donc, pendant 8 ou 12 mois, une année à peu près, que ce cycle continuera dans votre corps et ça se transformera à ces longs vers-là. Le ver peut s'installer dans n'importe quelle partie du corps. Ça peut être au niveau des seins, au niveau du cou, au niveau des testicules, au niveau de la hanche. Mais l'endroit de prédilection, c'est au niveau des membres inférieurs. Donc, les jambes, le cuisse, les pieds, et ça s'installera là. Ça se manifeste par des douleurs atroces sous forme de chaleur, de déjection de feu. D'ailleurs, le mot dracunculose tire son origine de cet animal mythologique dont on nous a longuement parlé. Même les enfants suivent dans les dessins animés qu'on appelle des dragons.
Oui.
Donc, bon, c'est cet animal-là qui crache du feu. Vous aurez des douleurs sous forme qu'on crachait du feu dans votre corps où se localisent ces vers et ça vous amène à une invalidation. Donc, la locomotion, le mouvement du corps se rendra pratiquement impossible et vous serez dans un état d'inertie pour ne pas travailler correctement. Donc, c'est cette maladie-là que nous appelons la dracunculose.
Voilà, vous avez dit c'est ça a la forme d'un des spaghettis. Spaghetti qui a d'un long de d'un mètre qui se loge dans plusieurs parties du corps.
Oui, effectivement.
Et
c'est une maladie aussi qui est placée dans le groupe des maladies tropicales négligées. Tropicales parce que ce sont des maladies qu'on retrouve entre les deux tropiques, ceux qui connaissent bien la géographie. Dans les deux tropiques, ce que nous trouvons, ce sont des saisons chaudes, il y a la présence des forêts, des eaux, parce que c'est lié au cycle hydrique. Et vous savez très bien que notre pays regorge plus de 52% de l'hydrographie de l'Afrique, donc nous ne sommes pas épargnés. Et dans le monde, il y avait à peu près plus de 199 pays qui étaient concernés, même les Émirats Arabes Unis, les Indes, ainsi de suite, qui étaient concernés par cette maladie. Mais actuellement, il ne reste que cette maladie. Donc c'est la deuxième maladie dont l'OMS veut éradiquer. Quand on dit éradiquer, c'est-à-dire le faire rayer dans le monde, l'éliminer complètement, que ça n'existe plus dans le monde entier. Mais il ne reste que 7 pays. Dans les 7 pays, il y a 5 pays qui sont endémiques et il y a 2 qui sont dans la phase de pré-certification. Pré-certification, c'est-à-dire que on cherche chez vous, on ne trouve pas et on veut dire maintenant, prendre la décision pour dire que chez vous, ça n'existe pas. Vous devez attendre les autres juste parce que ça va disparaître chez eux. Et en ce moment, on va déclarer l'éradication. Et l'éradication, c'est un phénomène mondial. Dans les 5 pays qui sont concernés, qui sont endémiques, nous avons le Soudan du Sud, nous avons l'Angola, nous avons le Tchad, nous avons l'Éthiopie, nous avons le Mali. Ce sont les pays qui sont pas loin de nous. Vous savez que nous sommes frontaliers avec le Soudan du Sud, nous sommes frontaliers avec l'Angola. Le Tchad n'est pas loin de nous. Parce que vous savez, les Tchadiens font des va-et-vient chez nous. Vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes de mbororo qui viennent avec leur bétail. Et cette maladie ne concerne pas les hommes que nous sommes, les humains, mais ça concerne aussi les animaux. Parce que quand cette maladie, on l'a, ou au niveau de l'eau, les poissons sont aussi concernés parce qu'ils avalent de l'eau, ils avalent ces larves-là. Et quand le pêcheur attrape les poissons, ils viennent les vendre à nous pour que nous puissions les consommer. Avant de consommer les poissons, nous les, comment je peux dire, nous ouvrons leur ventre pour faire sortir tout ce qu'il y a comme déchets, ce que nous appelons des boyaux. Et ces boyaux-là, on les jette et les chiens, les chats, les animaux qui sont tout autour de nous, les animaux domestiques, en mangent, en consomment. Et ils développent aussi cette maladie. Quand je parlais des phénomènes mbororo, c'est-à-dire quand ils viennent avec leur bétail, ces bétails-là aussi s'abreuvent de l'eau qui est contaminée et ils viennent avec cette maladie. Donc, c'est ça la question. Et quand la personne, comme on l'avait dit, la clinique ou la manifestation ou les symptômes, ce sont des douleurs, la douleur ne veut dire seulement que ces vers-là est arrivé à maturité et il veut pondre encore de nouveau des larves. C'est-à-dire qu'il vous dérange par la douleur, cette douleur qui va vous pousser à aller chercher un calmant. Le calmant, à l'occurrence, c'est placer votre membre qui est concerné dans l'eau, parce qu'on vous dit que c'est sous forme de feu, de chaleur.
Oui.
Et ce qui peut atteindre la chaleur ou cette douleur-là, le fait, c'est seulement de l'eau.
De l'eau.
Quand vous placez de nouveau le membre, à l'occurrence, je parle du membre inférieur dans l'eau, ce verre va profiter pour expulser encore de nouveau les larves et le cycle continue. Donc, les larves rentrent encore dans l'eau de consommation et ainsi de suite. Les gens viendront encore consommer cette eau, ils sont contaminés.
Et quelles sont, docteur, quelles sont les parties du pays où on retrouve plus ces gens de ce verre de Guinée?
Bon, c'est ça que j'étais en train de dire. À l'époque coloniale, on avait étiqueté dans notre pays plus de 518 cas des vers de Guinée. Et dans les 518 cas, il y avait à peu près 340 quelques cas qui étaient occupés ou retrouvés au niveau de l'espace Kassai. Et à l'époque, là, il n'y avait que 6 provinces dans notre pays. L'espace Kassai actuellement est scindé en 5 provinces, à savoir Kassai central, Kassai occidental, Kassai oriental, l'Omami et le Sankuru. Donc c'est cet endroit-là où il y avait beaucoup de cas et Kinshasa aussi. Ça ne concernait pas seulement les Noirs à l'époque, ça concernait aussi les Blancs. Donc actuellement, nous ne pouvons pas dire que ça concerne seulement les Kassai ou ça concerne seulement Kinshasa. Non, ça concerne partout où on consomme de l'eau des nappes, les eaux des mares, l'eau qui ne coule pas, l'eau qui n'est pas, l'eau qui n'est pas purifiée, l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas digne de la consommation. Ça peut arriver. Mais depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, depuis 1960, il n'y avait pas de programme qui s'occupait de la traque de cette maladie-là, si je peux utiliser le mot vulgaire. Et c'est seulement en 2002 que le ministère de la Santé a mis sur pied ce programme appelé PNED, PNED, Programme National d'éradication de la Drankikilose, qui a commencé les travaux pour chercher encore de nouveaux cas. Depuis lors, nous cherchons, mais nous n'en trouvons pas. Parce que quand nous avons des appels ça et là, que voilà, ce ne sont pas les signes de votre maladie, nous devons aller pour extraire ces vers-là et l'envoyer dans un laboratoire approprié qui est certifié, c'est le laboratoire de CDC Atlanta aux États-Unis, qui pourrait nous dire que c'est vrai ou faux, c'est pas la drankikilose. Mais de tout ce que nous avons dit comme rumeur, comme cas suspect, et les vers qui ont été extraits et envoyés au CDC Atlanta, jusqu'à présent, il n'y a pas un résultat positif. Ce sont les autres pathologies, comme des larves à migrantes, comme l'ulcère de Bourouli, comme des objets vivant dans la nature, des objets biologiques ainsi de suite. Donc jusque-là, il n'y a aucun cas. C'est pour ça que nous étions placés dans le groupe des pays en pré-certification, nous et le Soudan. Mais nous sommes entourés des pays endémiques, comme je l'ai dit, l'Angola n'est pas loin de nous, le Soudan du Sud n'est pas loin de nous, le Tchad n'est pas loin de nous, et ainsi de suite. Donc nous devons alors sensibiliser la population, parce que c'est une maladie qu'on veut certifier. Mais la population n'en connaît pas. Actuellement, donc, nous sommes en train de tourner l'émission, nous sommes à Maluku. Nous sommes derrière la maison communale de Maluku, dans un centre médical de la Régie des Eaux. Donc, nous sommes en train de sensibiliser les gens sur l'usage, la consommation de l'eau potable. Donc, mais les gens n'en connaissent pas. Nous avons même dans un milieu médical beaucoup de corps médicaux, de professionnels de santé ne maîtrisent pas cette maladie. Donc, c'est ça l'objet de notre sensibilisation. Si on trouve, on tombe sur ces cas, c'est ce que vous avez annoncé dans votre émission, et à un système de récompense monétaire dont nous allons développer tout au long de cette émission. Voilà.
Bien. Alors, comment fonctionne le système de détection du ver de Guinée que vous avez mis en place?
Au niveau de notre pays, il y a le ministère de la Santé qui est bien structuré, qui est en dehors du niveau central où nous avons le ministère, le secrétariat général. Il y a les niveaux intermédiaires que nous appelons des divisions provinciales de santé. Les divisions provinciales de santé, c'est l'équivalent de provinces, si je peux dire, au niveau du territorial. Et après les divisions provinciales de santé, il y a ce que nous appelons les zones de santé ou les bureaux centraux que les gens connaissent. C'est l'équivalent presque des communes ou de bourgmestres. Donc, à ce niveau-là, au niveau périphérique, maintenant, il y a des centres de santé de référence, des hôpitaux généraux de référence, des centres de santé. Et toutes ces structures-là sont maintenant mobilisées, sensibilisées pour la détection de ces cas par rapport à la définition simpliste dont je venais de parler tout à l'heure. Donc la présence de la douleur, d'une invalidation, surtout si ça concerne les membres inférieurs, douleur sous forme de chaleur. Parfois, il y a des lésions cutanées sous forme de bulles ou de flictaines, comme on le dit, comme si quelqu'un venait de se brûler. Il y a une capsule au-dessus de la peau et à l'intérieur duquel nous trouvons de l'eau, des liquides. Mais la différence, c'est que dans ces liquides-là, des brûlures, il n'y a rien, vous voyez que le liquide. Mais pour le ver de Guinée, vous verrez l'extrémité d'un ver en train de bouger, dans ce ver-là qui cherche un endroit où il peut sortir pour expulser de nouveau les larves. Donc, c'est ce système-là sur la définition des cas. Tout professionnel de santé dans la liste des maladies à surveillance, parce que nous avons des maladies à surveillance hebdomadaires chaque semaine et des maladies à surveillance peut-être mensuelles. Mais pour nous, un seul cas constitue déjà une épidémie. Donc c'est pour cela qu'ils sont sensibilisés pour la surveillance. Même au niveau des frontières, comme nous avons dit, nous avons une surveillance transfrontalière. Nous travaillons avec les gens de la Direction générale des migrations. Nous avons tout un programme au ministère de Santé qui s'occupe de l'hygiène au niveau des frontières. Je crois que Beach, vous les trouvez au niveau des aéroports, des aérogares, des aérodromes. Ils sont là et nous travaillons avec eux. En dehors de cela, il y a tout un grand programme aussi du ministère de Santé, le programme élargi de la vaccination, qui a des campagnes saisonnières ou routinières, si je peux le dire, et qui nous aide aussi à sensibiliser. Même le programme national de nutrition qui parle de ça. Parce que quand nous parlons de l'eau, c'est le premier nutriment pour le corps humain. Donc, ils sont en train aussi de sensibiliser les gens dans cela. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous travaillons avec les relais communautaires, ce que nous appelons des RECO. Nous travaillons avec des leaders d'opinion dans des communautés, des chefs poutiniers, des moamis, et tout ce monde-là pour qu'ils soient au courant, au parfum de l'existence de cette maladie. Dans moindre catarbe, s'ils tomberaient sur un cas qui pourrait stimuler la définition dont nous venons de dire. Ils vont alerter directement les centres les plus proches, la structure de santé, la formation médicale qui est à côté d'eux, et en ce moment, ils viendront pour investiguer les cas. Quand ils investiguent les cas, ils prennent l'identité, tout ce qu'il y a à remplir dans cette fiche, et ils vont procéder à ce que nous appelons les tests d'immersion contrôlée. C'est-à-dire, comme la douleur est là, et le ver, la personne qui souffre cherchera un soulagement, on va le plonger dans un récipient contenant de l'eau, un bassin, une bassine, et en ce moment-là, le ver va profiter pour commencer à sortir. Et quand le ver commencera à sortir pour expulser de nouveau des larves, c'est en ce moment que le corps médical de la personne qui est entraînée profitera aussi pour l'extraire. Ils vont l'enrouler sous une petite tige, vous savez, même le cure-dent ou n'importe quelle tige d'allumette, ainsi de suite, pour l'enrouler lentement et délicatement, en vue de le faire extraire complètement. Parce que s'il se coupe, il reste encore dans le corps, il y a des complications, même les tétanos, ainsi de suite. Donc, on lutte à ce qu'il sorte complètement. Et quand on l'extrait complètement, comme on vous a dit, il est très long, il peut atteindre un mètre de longueur. Oui. Et oui, en ce moment, on le met dans un bocal contenant de l'alcool dénaturé à 70%, et on va fermer hermétiquement la boîte en question pour nous l'expédier. Et à notre niveau, nous prendrons contact avec le bureau de l'OMS qui est sur place pour envoyer cet échantillon à Atlanta, aux États-Unis, en vue d'une expertise plus poussée. Voilà.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la surveillance épidémiologique du ver de Guinée en RDC. Nous avons Aline Charles de Lubumbashi et Malonga de Bandundouville. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, prenons le cas d'Ino qui est pollué de son état, mais cette eau n'est pas stagnante, c'est une eau qui coule. Or, dans nos villages, le message que l'on distille souvent est que si un cours d'eau a une eau qui coule, celui-ci ou cette eau-là n'est pas dangereuse. Elle doit être consommée sans peur d'avoir les risques. Alors, nous voulons savoir de la part de l'invité. Une eau qui coule, celle-ci peut présenter des doutes, car le message distillé dans les milieux ruraux et tout carrément d'autres. Et puis, quels sont ces principaux insectes porteurs de larves? Et pour terminer, est-ce que les crapauds et toute la famille des amphibiens sont aussi porteurs de larves? Voilà un peu ce que nous avons voulu savoir.
Merci. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour, je suis à Kinshasa, toujours ici.
Bien, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au ver de Guinée?
Bon, ça en tout cas, j'ai très bien suivi l'invité attentivement de ce qu'il nous explique et il nous prévient d'être prudent. Mais aujourd'hui, je veux vous dire qu'il y avait une sensibilisation là chez nous, à Bandundouville. On nous expliquait aux zoonoses, donc maladie d'origine animale. On nous a beaucoup expliqué que de s'éloigner à vivre ensemble avec ces animaux, les volailles, tout ça. Mais ça a coûté la vie. Nous, les tropicaux, nous sommes les éléphants. Et nous sommes habitués à cela. La sensibilisation, vraiment, a beaucoup de souffrances pour dominer la population, s'éloigner surtout à leurs chiens, leurs chèvres, les poulets, et ainsi de suite. Bon, de tout ce que l'invité vient nous expliquer, nous écoutons ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplacer à cette vie, puisque la vie populaire de la population tropicale s'habitue à cela. Nous sommes les forestiers, nous sommes les personnes qui s'habituent à vivre près des eaux.
Oui. Quelles précautions il faut prendre pour éviter ces larves du ver de Guinée? Merci Malonga.
Ok, c'est ça.
D'accord. Docteur Serge Nkoy, vous avez la parole.
Merci. Je remercie les auditeurs, surtout ceux qui ont intervenu, moyennant leur connexion à la radio Okapi. L'ami qui est à Lubumbashi, qui nous a appelé, ce sont des questions vraiment très très pertinentes. Nous allons lui répondre d'emblée que l'eau qui coule, c'est pas une eau qui est propre. Ce n'est pas ça la définition d'une eau propre. Je donnerai l'exemple à ceux qui sont ici à Kinshasa. La rivière Kalamu coule. La rivière Makelele coule. La rivière Ngil coule. Est-ce que voudrez-nous dire que c'est une eau potable? Non. Le fleuve Congo coule. Est-ce que voudrez-nous dire que c'est une eau potable? Je ne pense pas. La preuve en est que la régie des eaux tire l'eau que nous consommons de toutes ces rivières que je viens de citer et elle fait un grand travail pour la purification de l'eau et pour le mettre à la disposition de la population pour la consommation. Donc l'eau qui coule ne veut pas dire qu'elle est saine. Donc il faut vraiment enlever dans notre tête cette hypothèse-là qu'on disait avant. On pourrait même dire aussi que nous, les Africains ou les Noirs, nous ne mourrons pas des microbes. C'est alors faux, parce que tous ceux qui sont à l'hôpital, ils sont tous malades. Et comment ils pourraient être malades? Ce sont des microbes. La plupart sont des maladies microbiennes. Alors, comment ils sont à l'hôpital? Donc, ce sont des fausses idées, des fausses hypothèses qu'il faut vraiment balayer dans notre jargon. Il faut savoir que l'eau est un milieu où il y a développement de plusieurs agents biologiques ou microbiologiques qui seraient à la base de l'éclosion de plusieurs maladies aussi. C'est pas pour rien que nous parlons aussi même des maladies des mains sales. Il faut savoir très bien laver les mains avant la consommation parce que nos mains sont aussi l'objet de transport et de plusieurs microbes pour la consommation. Mais dans les cas d'espèces, pour la dranquiculose, ce qui concerne le développement de ces larves-là, c'est plutôt des eaux des mares, les eaux qui ne coulent pas, les eaux stagnantes. Mais comme on avait même discuté avec les gens, les amis de la médecine tropicale de l'université de Kinshasa, la faculté de médecine, ils ont dit actuellement, avec l'évolution dans notre pays, où il y a quand même la distribution des eaux dans presque chaque coin de la République, il est presque rare que nous puissions nous retrouver dans des endroits où il y a des eaux des mares. Mais il y en a. Même dans les fins fonds de Kinshasa, nous avons des zones urbano-rurales où ils consomment des eaux des mares, consomment des eaux des puits, et ainsi de suite. Donc la purification de l'eau, c'est un élément très important. C'est d'ailleurs un élément moteur dans notre outil de sensibilisation pour la prévention, la consommation de l'eau potable pour éviter de développer de telles maladies, dont la dranquiculose aussi fait partie. Donc l'hypothèse de ces eaux des mares n'est qu'un... les eaux coulantes ne tiennent pas. Les crapauds, les amphibiens, oui, ils sont concernés dans cette maladie parce que, j'ai cité même les poissons parce que nous consommons les poissons, même ces crapauds-là aussi sont concernés par cette maladie. Les gens, il y a des coins dans notre pays où on mange des grenouilles, c'est une bonne viande, il paraît. Alors, ceux qui en consomment doivent bien cuire, n'est-ce pas, ces animaux, ces amphibiens, pour ne pas tomber dans le risque de contamination de la dranquiculose. D'ailleurs, les poissons, les boyaux, sont consommés par les animaux de compagnie, comme on venait de dire, les chiens, les chats, ainsi de suite. Ils sont aussi concernés, ils développent aussi la dranquiculose. Alors, la prévention, la précaution à prendre, c'est de bouillir de l'eau, si vous avez les moyens de bouillir de l'eau, ou d'acheter des solutions désinfectantes qu'on est en train de vendre presque partout. Il y a d'autres en comprimé, en gouttes, ainsi de suite, on dit même une goutte pour un litre, ainsi de suite, pour purifier l'eau des boissons que vous pouvez utiliser dans votre famille. Ou dans les cas contraires, consommer de l'eau que vous connaissez, que c'est vraiment potable et sain. Voilà ce que je pouvais dire. Pour notre ami qui est à Bandundu, qui a parlé qui sont des éleveurs, vous êtes des éleveurs, même dans la partie est de notre pays, c'est plus des éleveurs, il faut savoir que les bovins, hein, le bœuf, le vache, le chèvre, les chiens, les chats, tous ceux qui sont tout autour de nous, les animaux domestiques, sont concernés aussi par la consommation de l'eau qui est contaminée et ils développent cette maladie-là. Donc nous devons aussi vérifier, si nous sommes des éleveurs, contrôler votre ferme, voir le nombre de têtes que vous avez là, est-ce qu'ils ne développent pas cette maladie aussi? Il faut voir, parce que l'animal, quand il souffre, vous savez qu'il souffre. Et peut-être les cris qu'il va commencer à lancer seront différents des cas du moment où il était en bonne santé. Ou voir s'il est en train de marcher difficilement, en boitillant ou quelque chose comme ça. Vérifiez bien qu'il n'y a pas un ver qui est en train de chercher à sortir, ou il n'y a pas une lésion qui tannait tout autour pour nous faire part. Parce que nous faisons et la surveillance des humains et la surveillance animale, de commun accord avec les amis de pêche et élevage et des amis qui sont dans la médecine vétérinaire. Voilà ce que je pouvais leur dire.
Bien, nous allons accueillir Orsène de Lubumbashi. Nous parlons de l'impact du système de détection du ver de Guinée à la République démocratique du Congo. Orsène, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, docteur.
On vous écoute.
Bonjour, Alfred.
Merci beaucoup, monsieur Jody, pour la parole. J'ai des petites questions que je me rends poser au docteur. La première question était celle de savoir si le verre en question peut se multiplier dans le corps d'une personne. Et la deuxième question, pour finir, si ce verre tombe sur une femme enceinte, je ne sais pas s'il y aura un peu des effets secondaires qui se retrouvent dans le ventre de la femme. C'est au moins ça, mes petites préoccupations.
Merci. Docteur Serge Nkoy.
En tout cas, celui qui vient de poser une question, c'est un savant. Il a poussé loin avec la connaissance et c'est un très bon sujet de recherche. Je sais que les vers vivent dans les corps humains. Ils se développent là pendant 8 à 12 mois, même 14 mois dans les corps humains, même chez l'animal. Et il va se positionner, comme nous l'avons dit, au niveau du cou, au niveau des seins, au niveau de la hanche, au niveau du scrotum, les testicules, au niveau des cuisses, au niveau des membres inférieurs, la jambe, les chevilles, et ainsi de suite. Alors, pour les cas le plus précis dont il parle d'une femme enceinte, c'est-à-dire une femme qui sera enceinte et en prenant de l'eau, l'enfant aussi est contaminé, je me réserve d'avancer de telles hypothèses, mais ce n'est pas aussi exclu. Parce que quand la femme consomme de l'eau, mais il consomme avec aussi la personne ou les personnes qui sont en elle. Donc ce n'est pas aussi exclu. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore vu des cas de branchiculose néonatale, si je peux dire, ou congénitale. Mais nous savons seulement qu'après l'injection de l'eau, ça peut arriver. Mais nous pousserons loin avec les recherches pour arriver à savoir qu'une femme qui porte en elle le ver ou qui a déjà consommé les eaux qui contiennent les larves de branchiculose, mais il existe cette filière-là, est-ce qu'il peut, en portant l'enfant dans son ventre, peut aussi le contaminer directement? Nous arrivons à le faire. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de cas prouvés dans ce genre d'études. Ce n'est pas encore fait. Surtout que dans notre pays aussi, jusque-là, on a zéro cas. Nous sommes en train de chercher, peut-être se cacher, où l'information n'est pas encore arrivée jusqu'à la dernière couche de la population. Si nous avons un échantillon donné, où nous pouvons faire des études, des cohortes, des études randomisées, en ce moment, nous pouvons dire que il y en a ou il n'y en a pas. Mais en tout cas, nous nous réservons, parce que jusque-là, depuis qu'on a créé les programmes, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucun cas de branchiculose. Mais avant qu'on prenne la décision de dire que notre pays est certifié, nous devons fouiller. Parce que vous savez que notre pays a des dimensions continentales, il est entouré de 9 voisins et il a une hydrographie qui est un peu spécifique à NEL, la RDC. Donc nous devons encore fouiller plus profondément. Nous avons choisi la radio Capi parce que vous arrivez à atteindre quand même le plus profond, le Congo profond. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire pour sensibiliser la population. Peut-être dans un coin donné, il y a un cas comme ça où nous pouvons extraire les vers et envoyer à Atlanta et on pourrait nous dire que voilà, c'est la maladie des vers de Guinée pour que nous puissions fixer notre attention là-bas et soigner les gens. Voilà.
Bien, une autre question, il a posé une autre question de savoir si le ver peut se multiplier dans le corps humain. On peut avoir un seul ver ou plusieurs vers dans le corps.
Ah oui, merci. C'est la question dont je n'avais pas bien saisi. Oui, ça ne veut pas dire quand vous consommez de l'eau, vous avez un seul ver. Non, on peut avoir un ou plusieurs vers. Donc il y a même des images où vous trouvez que l'enfant est en train de téter, il y a un ver qui le salit à côté du sein de sa mère, et de l'autre côté, au niveau de la jambe de la même maman, il y a un autre ver aussi qui sort. Donc on peut avoir un ou plusieurs vers pour la même personne.
Voilà, on peut avoir plusieurs vers. Aujourd'hui, oui. Les gens ont pris l'habitude d'avoir d'utiliser les eaux de forage dans plusieurs parcelles, dans la périphérie de Kinshasa et ailleurs. Il y a beaucoup de forages. Est-ce que la consommation des eaux provenant de ces forages peut présenter des risques d'attraper le ver de Guinée?
Oui, en tout cas, actuellement, nous ne pouvons pas affirmer cela, parce que pour qu'il y ait consommation, le forage, c'est un puits qu'on crée. Pour que cette eau-là soit consommée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le ver dans son corps, qui viendra plonger les membres qui est concerné, et le ver qui est en cette personne-là va expulser les larves qui vont traîner dans ses eaux. Et puis, au niveau des puits, même au niveau de l'eau dont nous avons parlé des eaux stagnantes, il y a ce que nous appelons des crustacés qui prennent en charge les larves. Là, les larves ne sont pas libres. Ils sont prises en charge par des crustacés. Et ces crustacés-là, ou des cyclopes, ce que nous appelons des cyclopes, c'est ceux qui gardent, ce sont presque des hôtes intermédiaires de cette maladie. Mais dans le cadre d'espèces pour les puits de forage, il n'y a pas de cyclopes là-bas. Et il n'y a pas aussi une personne qui a contaminé ces eaux-là. Au moment où nous sommes en train de chercher les personnes, on n'en trouve pas. On trouvera seulement une personne qui viendra contaminer les eaux des forages. Et puis c'est profond aussi, pour qu'il arrive à plonger son membre jusqu'à atteindre la nappe où l'eau est en train de sortir, c'est un peu difficile. Donc là, nous pouvons dire avec certitude, peut-être avec un peu de réserve de 1%, mais à 99%, nous affirmons que les eaux de forage ne sont pas concernées par cette maladie.
Voilà. Bien, alors, excusez-moi, si on comprend bien, docteur, d'après ce que vous venez de dire tout à l'heure, la RDC est en phase de pré-certification par l'OMS, ça veut dire qu'on ne retrouve plus assez des cas de vers de Guinée à travers le pays.
Depuis qu'on a travaillé, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après, on n'a trouvé aucun cas. Mais on a eu des cas suspects, hein, ce que nous appelons des rumeurs. C'est-à-dire, on peut vous appeler dans un coin du pays, dans une province, dans un village, dans un coin pour dire qu'il y a un cas, qu'est-ce que ce n'est pas votre maladie dont vous êtes en train de nous faire du bruit dans les oreilles. Et nous dépêchons des équipes pour l'investigation. En fait, l'équipe cadre de la zone de santé, là où l'équipe de l'hôpital général de référence, du centre de santé, ainsi de suite, pour investiguer ces cas. Et s'il s'avérait qu'ils parviennent à faire les tests d'immersion contrôlée et arriver à extraire les vers, si c'était les vers, on nous enverrait. Mais tout ce qu'on nous a envoyé comme vers, après analyse au niveau des CDC Atlanta, c'est rentré négatif. Nous avons même sollicité au niveau de l'OMS que nous puissions faire des contre-expertises ici au niveau de l'IMRB. Mais jusque-là, les démarches sont en cours parce que jusque-là, le seul laboratoire qui est certifié dans le monde entier, c'est seulement le CDC Atlanta. Bon, qu'à cela ne tienne, mais nous, nous ne pouvons pas dire que ça peut être, comment dire, peu de cas. Non, pour nous, c'est zéro cas jusque-là. Même dans nos outils de surveillance, les DHI2, le rapport SINIS, ainsi de suite, il n'y a aucun cas de dranquicolo. Et nous insistons qu'ils mettent zéro cas. Les médecins chefs de zone, les infirmiers titulaires de centre, les médecins directeurs, les directeurs des nursing, au niveau des data, les EPI info, les infos SAN au niveau des districts sanitaires ou des niveaux des divisions provinciales de santé, qu'ils insistent auprès de tous ceux qui travaillent avec eux de mettre zéro, si c'est zéro, qu'ils ne laissent pas vide, parce que dans le cas de surveillance, les zéros comptent. Les zéros, c'est un chiffre qui compte. Donc on doit vraiment mettre zéro. Jusqu'à là, il y a zéro cas. Mais nous sommes en train de...
Docteur, mais il y a zéro cas. Il y a zéro cas aujourd'hui, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est une maladie qui n'est pas très connue. Il y a besoin de sensibiliser plus la population. Peut-être que la maladie est encore là, mais les gens ne savent pas la reconnaître.
Oui, effectivement, c'est ce que vous avez dit. C'est la raison d'être au niveau de Radio Capi, pour arriver à envoyer l'information au plus profond de notre pays, peut-être dans un coin où ils ignorent encore les cas. Nous avons dit même au niveau des corps médicaux, on n'arrive pas à comprendre l'existence de cette maladie, a fortiori les gens qui sont profanes. C'est pour ça que nous insistons que ça arrive. Mais pour tout ce que nous faisons comme surveillance, jusque-là, c'est zéro cas. C'est zéro cas. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, nous voulons aller plus loin. Vraiment, ce qu'on dit, le ratissage en quelque sorte. Après la guerre, quand vous êtes en train de conquérir une cité, un territoire, qu'est-ce que vous allez faire? Le ratissage, entrer encore à l'intérieur, fouiller s'il n'y a pas d'autres qui se sont cachés pour les récupérer là où ils sont cachés. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que le pays est tellement vaste. Voilà.
Bien, on va accueillir Samuel Marcel Béa de Kinshasa. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama. C'est Samuel Béa de Kinshasa.
Oui Samuel. Et non, Marcel.
Ah oui, et non, Marcel, oui. Merci pour la pertinence du sujet. Ma préoccupation est celle de savoir, j'aimerais savoir que le docteur puisse nous dire par rapport à la contamination. Donc, quand on prend la tranche d'âge, laquelle est beaucoup plus touchée? La tranche d'âge qui est beaucoup plus touchée par la maladie. Et deuxièmement, par rapport avec les sexes, lequel entre les deux sexes est beaucoup plus exposé que l'autre? La troisième question. Comme le docteur est en train toujours de dire qu'on est en train de militer l'homme est en train de militer pour qu'on puisse éradiquer la maladie une fois qu'on va terminer encore dans d'autres pays qui sont restés et on va déclarer l'éradication totale de la maladie. S'il arrivait qu'on ait à déclarer la maladie est éradiquée, on fait tout ce qu'il faut faire, des ratissages, tout, on se rassure que non, la maladie est éradiquée, la population est informée. Est-ce que le programme doit prendre fin au Congo? Est-ce qu'on va dire que nous avons tout réussi, maintenant c'est fini, nous allons mettre fin au programme, ou soit le programme doit toujours rester en vie au moment où il n'y a pas de maladie? Je vous remercie.
Bien, merci. Docteur Serge Nkoy, à vous la parole.
Ah, merci mon frère Jeudi. C'est une bonne question, notre ami Samuel, que je salue en passant. Il n'y a pas une tranche d'âge qui est épargnée. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Même actuellement, on dit que les enfants doivent être nourris, les nouveau-nés, doivent être nourris au sein, n'est-ce pas? Au sein, l'allaitement maternel exclusif. Mais nous savons qu'ils prennent de l'eau. Nous savons qu'ils prennent de l'eau, je ne veux pas aller à l'encontre de cela. Donc, aucune tranche d'âge qui est épargnée pour la contamination de cette maladie. De même que pour les sexes. Il n'y a aucun sexe ratio que nous pouvons dire que tel sexe est plus concerné par rapport à l'autre. D'ailleurs, il n'y a que deux sexes. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, tous les deux, que ce soit l'un et l'autre, sont exposés au même moment, au même niveau, au même pourcentage. Pour l'éradication, comme l'ami demandait, le programme s'intitule Programme national d'éradication de la granquiculose. Nous avons dit l'éradication, c'est un phénomène mondial à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que cette maladie n'existe dans aucun coin du monde. Là, on parle de l'éradication. Mais la certification concerne seulement les territoires nationaux, comme nous, la RDC, comme d'autres pays qui étaient jadistes concernés par cette maladie. Aujourd'hui, n'en ont pas, on dit qu'ils sont certifiés. Les jours où on arrivera à certifier notre pays indemne de cette maladie, le programme continuera avec la surveillance, comme on l'a dit. Nous devons contrôler, nous devons continuer les ratissages, nous devons faire des enquêtes pour voir s'il n'y a pas un cas caché ou il n'y a pas un cas importé. Parce que nous sommes entourés de pays endémiques. Nous avons parlé de Mbororo au début de l'émission, qui viennent avec leurs bétails. Ainsi de suite, les gens, comme ils savent que notre pays c'est un paradis terrestre, ils préfèrent toujours venir chez nous avec leur bétail ou chercher leur seconde patrie, en quelque sorte. Mais ils peuvent aussi venir avec la maladie. C'est pour cela que nous travaillons avec toutes les structures au niveau des frontières, nous travaillons avec toutes les structures du ministère de Santé à l'intérieur du pays, en interne, si je pouvais le dire, pour continuer la surveillance, le contrôle, les ratissages. Donc c'est ce que nous avons dit. Je donne l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui est déjà certifié, mais il n'y a pas longtemps, on a retrouvé plus de 3-4 cas au Cameroun. Et on s'était demandé, mais quel est maintenant le statut du Cameroun? On a dit le statut. Le Cameroun est toujours certifié, mais ce sont des cas importés du Tchad. Parce que le Cameroun est voisin au Tchad. Et le Tchad, c'est un pays vraiment hyper endémique dans cette maladie. Et ce sont des cas qui sont venus du Tchad pour se développer au niveau du Cameroun. Donc, pour ne pas connaître de mêmes risques, l'Angola est là, le Soudan du Sud est là, le Tchad est là. Nous devons continuer. Même si nous ne parlons pas de l'Angola, le Soudan du Sud qui sont tout autour de nous, mais vous avez vu avec le phénomène qui est arrivé quand il y a eu la maladie de Covid-19, la maladie qui commence loin de nous, des milliers de kilomètres en Chine, mais dans peu d'états, c'était arrivé chez nous. Pourquoi? Il y a des avions, il y a des voyageurs, il y a de ceci, cela. Donc au niveau des aéroports, au niveau des beaches, partout, dans les structures de santé, la vaccination, les structures de vaccination doivent veiller à surveiller aussi pour ne pas laisser passer entrer chez nous une maladie ou un cas importé. Voilà. Nous continuerons la surveillance jusqu'à ce qu'on va déclarer l'éradication. Il y a éradication, c'est-à-dire nous serons calmes, nos voisins ne sont plus aussi concernés. En ce moment, nous allons rester, mais on va fermer les programmes et réorienter les programmes pour autre chose. Là, l'éradication, c'est au niveau mondial. Mais la certification, nous continuerons à travailler jusqu'à l'éradication. Voilà.
Bien, alors rappelez-nous, par rapport au système de surveillance, vous avez dit que nous avons... lorsqu'on vous rapporte des cas, vous allez vérifier directement pour vous assurer qu'il s'agit de cela ou pas. Vous prenez les échantillons que vous envoyez à CDC aux États-Unis pour les examens. Il y a aussi également la surveillance aux frontières et les recours au RECO, qui sont les relais communautaires.
Oui, c'est ce que nous faisons. Nous sensibilisons les leaders d'opinion, les relais communautaires, les responsables au niveau du territorial, comme nous sommes allés, nous sommes là, nous sommes derrière la maison communale des Maloukou, Mais avant de commencer notre travail, nous sommes allés d'abord au bureau du bourgmestre, et nous sommes en train de saluer, en passant peut-être l'être en train de nous suivre, pour présenter des civilités. C'est lui l'autorité politico-administrative qui nous a donné l'accès pour rentrer dans sa commune, parce que Maluku est scindé en deux zones de santé, Maluku 1 et Maluku 2. Aujourd'hui, nous sommes en Maluku 1, demain, nous serons en Maluku 2. De même, le ministère de la Santé, notre ministre, son Excellence Jean-Jacques Mbungani, a écrit officiellement à tous les gouverneurs, n'est-ce pas, pour savoir l'existence de cette maladie et nous faciliter la tâche, parce que nous sommes dans la phase presque de la décision pour certifier les pays. Alors, nous avons beaucoup d'activités à mener sur terrain, notamment des carnavals motorisés, la sensibilisation au niveau des médias, au niveau des proches. Nous avons visité même une école où on fait l'examen des ENAFEP. On ne savait pas que ça changeait à ENAFEP. Nous avons vu les structures de santé de la police de Maluku ici. Nous sommes dans une structure privée de la régie des eaux, et ainsi de suite. C'est là que nous irons bientôt à l'ITEM Maluku, aux ISTEM qui sont ici, au niveau des ports, et travers toutes les structures de l'État qui sont là, et même les privés, sensibiliser les gens, même dans des marchés, dans les églises, pour parler de cette maladie. Nous remercions les prélats, les abbés, les curés qui ont facilité la tâche à nos équipes à l'intérieur du pays, comme ici, pour prendre la parole pendant l'homélie, n'est-ce pas, pour parler de cette maladie. Alors, nous les remercions parce qu'ils sont en train de contribuer au bien-être de la population. De même qu'au niveau des écoles, au niveau des universités. Nous-mêmes, nous avons tenu des conférences avec, même enseignés au niveau de l'école de santé publique de Kinshasa, au niveau de l'école de santé publique de Lubumbashi. Et ainsi de suite, nous continuerons notre travail pour continuer à sensibiliser, pour renforcer, booster la surveillance. Donc, nous vous avons dit, nous avons un système de récompense monétaire. On dit que il n'y a pas un travail inutile dans ce monde. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent doivent bénéficier quand même de quelque chose. Mais pour bénéficier, il faut nous trouver un cas. C'est-à-dire celui qui trouve un cas, s'il nous appelle, pour nous c'est un cas suspect ou une rumeur. Nous venons, nous investiguons, nous procédons à l'extraction du verre et nous envoyons au CDC Atlanta. Si le CDC Atlanta parvenait à confirmer que c'est un cas positif de branchiculose, nous rentrerons dans ces lieux-là avec une cérémonie solennelle. D'abord pour féliciter, encourager ceux qui ont fait ce travail. C'est-à-dire il y a une cagnotte de 1000 dollars qui est mise en jeu, une enveloppe de 1000 dollars. On donnera 250 dollars à la personne qui est malade, qui souffrait de cette maladie, la branchiculose, dont on a pu extraire le verre. La personne qui est partie donner l'information à la structure sanitaire qui est tout autour de là, formation sanitaire, on lui donne 250 dollars. La personne qui a extrait le verre auprès de la personne souffrante aura 250 dollars. Et la zone de santé concernée, comme nous sommes à Maluku, s'il y a un cas à Maluku, c'est-à-dire Maluku aussi aura un 250 dollars, le bureau central de la zone de santé de Maluku.
Bien, donc, il y a une cagnotte de 1000 dollars. Oui. Toute personne qui va détecter le cas de verre de Guinée aura droit à une somme d'argent.
Oui, une somme d'argent. C'est seulement pour pousser tout le monde à faire la surveillance. Et si vous tombez sur ce cas, l'enveloppe viendra entre vos mains. La personne souffrant, 250. La personne qui a amené l'information à la formation sanitaire, 250. La personne qui a extrait le verre, 250 dollars. Et la zone de santé, 250 dollars. Et si c'est toi-même le souffrant et la personne qui donne l'information, donc vous avez le double. Donc si je pourrais le dire. Et si c'est toi-même qui extrait le verre, excusez-moi de faire rire nos auditeurs, vous avez 750 dollars. Donc voilà.
Voilà.
Mais quand on extrait, il faut une formation donnée, un entraînement pour ne pas couper le verre. Il est tellement fragile. Vous avez les verres, hein, on peut les couper facilement.
Donc, cela veut dire que tout le monde, docteur, cela veut dire que...
Délicatement, pour qu'il sorte complètement, qu'il ne reste pas dans le corps de la personne concernée.
Cela veut dire que tout le monde peut extraire ce verre, par exemple, s'il est logé au niveau de la cheville, comment l'extraire, avec quoi, qu'est-ce qu'il faut utiliser, etc.
Oui, tout le monde peut l'extraire, mais tout le monde n'est pas aussi formé. Il y a des gens, même au niveau du village, il y a des gens qui joue un grand rôle au ministère de la Santé. Nous parlons des matrones, des sages-femmes qui aident même dans les accouchements, sans être accoucheuses ou accoucheurs ou sages-femmes. Mais ils les font, les matrones qui sont là. Donc, c'est-à-dire, la personne doit être vraiment posée pour poser d'abord le membre concerné du corps ou loge, où il y a quand même manifestation de la sortie du verre en question, dans l'eau. Et le verre, quand il va se sentir dans l'eau, il aura tendance à sortir de lui-même pour pondre. C'est à ce moment-là qu'on commence à l'enrouler délicatement sur une tige. Ça peut être un stylo, ça peut être une tige coton, ça peut être ce qu'on appelle des cure-dents, n'importe quelle tige, l'enrouler, même tige de balai, l'enrouler délicatement et commencera à sortir. Et quand vous sentez une résistance, vous vous reposez, vous continuez encore les tests d'immersion contrôlée, et ainsi de suite, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte qu'il sort complètement. Même quand nous extrayons des chics, voyez, vous savez que le chic est sorti complètement, ou il est trouvé, il est resté. En ce moment, vous allez vraiment lutter que les vers sortent, parce qu'il est très long, et ça vous demande de la patience, ça vous demande d'être posé et calme pour extraire. Mais nous souhaitons que ça soit le corps médical. Donc, informez le centre de santé le plus proche de vous, la formation sanitaire qui est à côté de votre maison. En ce moment, il y a des gens outillés qui peuvent le faire de façon aseptique aussi, pour éviter que le trou, le perfus dont sort les vers soit l'objet d'une nouvelle contamination ou une autre maladie. En l'occurrence, le tétanos.
Bien, docteur Serge, pouvez-vous rappeler les symptômes, disons les signes de la présence du ver de Guinée, comme ça les auditeurs vont bien retenir et aller rechercher les cas?
Oui, le signe principal, c'est la douleur. La douleur sous forme de chaleur, de déjection du feu. Hein? C'est vraiment une douleur insupportable qui va pousser la personne concernée à plonger les membres ou loge les vers dans l'eau pour se soulager.
Et généralement, c'est au niveau des pieds.
Une situation antalgique, si on pouvait le dire. En dehors de la douleur, s'il y a une impotence fonctionnelle de l'endroit, c'est-à-dire, vous, si c'était les membres inférieurs, vous ne saurez pas marcher. Hein? C'est vraiment une invalidation, en quelque sorte, de l'endroit. Si c'est au niveau des testicules, je me demande, vous allez marcher les jambes écartées parce que vous aurez des douleurs où vous ne supporterez pas même que votre cuisse cogne sur la bourse. Si c'est au niveau du thorax, même, je vois même des photos de femmes dans des pays endémiques qui se lèvent, sortent au niveau du sein. C'est une douleur atroce au niveau du thorax et tout autour du sein. Donc c'est la douleur qui prime et l'importance fonctionnelle. En dehors de ça, il y a des lésions cutanées. La peau doit se transformer. Il y aura présence d'une tuméfaction ou un gonflement contenant des liquides, ce que nous appelons des bulles, à l'image de la personne qui est brûlée. Hein? Une couche de la peau qui se soulève et à l'intérieur de laquelle il y a des liquides translucides. Mais dans ces liquides-là translucides, vous verrez une partie caudale ou extrême du ver en train de flotter pour chercher à sortir, pour pondre de nouveau les larves.
Si je pourrais. Voilà, ce sont là les signes qui vont vous permettre de détecter la présence du ver de Guinée.
La présence de ver. Et parfois, et ça gêne un ulcère, c'est-à-dire une plaie, en quelque sorte. C'est parce qu'il y a des confusions avec l'ulcère de Bourouli. Donc ça peut laisser une plaie. Mais d'accord. La différence, c'est que cette plaie-là, cette plage au niveau du corps, par l'endroit concerné, il y a présence de sorties d'un ou de plusieurs vers. N'est-ce pas? Ils font flotter leurs extrémités pour chercher à sortir par le moyen de la douleur pour expulser de nouveau les larves.
Docteur Serge, est-ce que le programme dispose d'un numéro vert par lequel les gens peuvent appeler pour signaler des cas?
Oui, nous sommes d'abord au niveau des... nous sommes ici dans l'enceinte de la clinique quinoise au quatrième niveau, pour ceux qui sont à Kinshasa, à l'enceinte de la clinique quinoise au quatrième niveau. Mais nous avons un numéro vert que je pourrais dicter aux malades, aux tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. C'est le 082 15 330 91 ou 91. Je répète, 082 15 330 91.
Bien.
Pour ceux qui aiment bien le français des Français.
D'accord. Merci. Docteur Serge Nkoimbilo, directeur du programme national de l'éradication de la drachinculose. Merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci à la Radio Okapi pour cette opportunité pour que nous puissions sensibiliser la population pour l'usage de l'eau potable et prévenir les maladies telles que la drachinculose dans leur vie. Donc nous travaillons des communs d'accord avec la régie des eaux, vous savez, qui lutte aussi pour disposer à la population de l'eau potable pour la consommation.
Merci, docteur. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici qui s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation de ce programme. Alain Goy à la mise en onde au micro, jeudi Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.